Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. 6 nouvelles personnalités entrent au gouvernement. Au total, 11 secrétaires d'État ont été nommés. Leurs noms ont été communiqués hier soir. Nous ferons le point avec Rosalie Lafarge sur ce qu'il faut retenir de ces nominations.
Le gouvernement annoncera bientôt de premières mesures inspirées de la Convention citoyenne pour le climat. Un conseil de défense écologique est prévu ce matin, présidé par le chef de l'État Emmanuel Macron.
Depuis l'ouverture vendredi d'une enquête préliminaire contre Aloïs Ntiwiragabo, une association espère le voir arrêté. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité. Celui qui était chef des renseignements militaires pendant le génocide de Rwanda vivrait depuis quelques années près d'Orléans.
Une simple déclaration pourrait bientôt suffire pour créer une radio ou une télévision en Tunisie. La société civile s'inquiète d'un projet de réforme de l'audiovisuel. Explication de notre correspondante sur place.
3 semaines que l'on attendait la liste des secrétaires d'État du gouvernement de Jean Castex. Eh bien, ça y est, leurs noms ont été dévoilés hier soir, bien après donc la nomination des ministres et ministres délégués. Ils sont 11, 5 personnalités reconduites et 6 qui font leur entrée au gouvernement, Rosalie Lafarge.
Et les nouveaux, l'exécutif est allé les chercher principalement sur les bancs de l'Assemblée. Dans le groupe La République En Marche d'abord. La fidèle Olivia Grégoire hérite de l'économie sociale solidaire et responsable. Bérangère Abbas s'empare de la biodiversité. Le détonnant Joël Giraud, issu de la gauche, s'occupera de la ruralité. Le Modem conforte son statut de partenaire indispensable avec 2 élus recrutés. Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et de l'engagement. Et Nathalie Elimas sur le gros chantier de l'éducation prioritaire. Le dernier nouvel entrant, c'est Clément Beaune. Après 3 ans comme proche conseiller d'Emmanuel Macron, cet énarque de 38 ans est promu secrétaire d'État aux affaires européennes. Voilà donc pour les nouveaux, les autres sont des confirmés. Sophie Cluzel reste chargée des personnes handicapées. Jean-Baptiste Lemoine du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Cédric O, trésorier de la campagne d'Emmanuel Macron, poursuit sa mission à la transition numérique et aux communications électroniques. Adrien Taquet, lui aussi marcheur historique, conserve l'enfance et y ajoute les familles. Laurent Pietraszewski, enfin, garde le délicat dossier des retraites, avec en plus celui de la santé au travail. Christelle Dubos et Brune Poirson vont donc retrouver leur siège au Palais Bourbon quand le député LR Guillaume Larrivé ne le quittera pas, au soulagement de certains au sein de la droite et de la majorité. Mais l'équipe n'est peut-être pas encore tout à fait au complet. Après quasiment 3 semaines d'attente pour les secrétaires d'État et alors que le gouvernement est déjà bien fourni, on attend encore les éventuels haut-commissaires, à commencer par François Bayrou, pressenti pour prendre en charge le haut-commissariat au plan.
On le disait donc, Brune Poirson ne rempile pas, elle quitte le secrétariat d'État à la transition écologique et solidaire, alors que se tiendra dans la matinée le 5e conseil de défense écologique autour du président Emmanuel Macron et de plusieurs ministres. Il devrait préciser l'avenir de certaines des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, celles retenues par le chef de l'État. Explication de Véronique Roberotte.
Des annonces et des débouchés concrets, c'est ce qu'attendent les ONG environnementales et aussi les 150 de la Convention citoyenne pour le climat à l'issue de ce 5e Conseil de défense écologique, mais le premier post-convention. Cela fait maintenant plus d'un mois que les services ministériels décortiquent les propositions des 150 destinées à lutter contre le réchauffement climatique, à réduire d'au moins 40% dans un esprit de justice sociale les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Des mesures d'ordre réglementaire rapidement applicable devrait être présenté aujourd'hui. La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex et sa ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, ont promis de passer des propositions à l'action sans tarder, sans filtre aussi, dans la mesure du possible. Mais l'essentiel du travail des 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat devrait cependant faire l'objet d'un travail législatif, ce qui devrait prendre un peu plus de temps. Un avant-projet de loi multimesure est prévu d'ici l'automne. Le texte sera examiné dès le début de l'année 2021 par les députés. Enfin, d'autres propositions seront intégrées au plan de relance soumis au Parlement à la fin de l'été. Elles concerneront essentiellement le fret ferroviaire et le vélo.
Et hier, dans le journal du dimanche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que sur les 100 milliards d'euros injectés dans le plan de relance, 30 seront consacrés à la transition écologique. Pressé par des associations et une partie de la majorité, l'exécutif a inscrit le projet de loi de bioéthique dans le calendrier des parlementaires juste avant leurs vacances. Il doit ouvrir la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes. Le texte arrive aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. nationale. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures de France Culture. Depuis ses aveux, son avocat affirme qu'il est soulagé. Une semaine après l'incendie de la cathédrale de Nantes, un bénévole du diocèse a reconnu samedi avoir allumé les 3 feux dans le lieu de culte. Cet homme de 39 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire.
France Culture, 7h05, Margot Delpierre, les contaminations au coronavirus baissent un peu aux États-Unis.
Les autorités ont recensé hier 55 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est encore beaucoup, mais c'est le chiffre le plus bas depuis environ 2 semaines. Plus de 146 000 personnes sont mortes aux États-Unis depuis le début de l'épidémie, pays le plus touché par le virus dans le monde. Et chez le voisin canadien, les autorités alertent là sur le risque de contamination chez les jeunes adultes. Les moins de 39 ans constituent une nette majorité des nouveaux cas de Covid-19. Prudence, être jeune ne signifie pas être invincible, rappelle l'administratrice de la santé publique. Après les révélations récentes du journal Mediapart sur la présence d'un ancien responsable du génocide rwandais en France, une enquête préliminaire a été ouverte vendredi pour crime contre l'humanité. Elle vise l'ancien chef des renseignements, Aloïs Ntiwiragabo, considéré comme un acteur important du génocide des Tutsis en 94 au Rwanda. Cependant, il n'a pas été arrêté, ce que regrette Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Pour lui, le traitement de ces enquêtes par la justice est trop long et peut devenir problématique.
Lorsqu'une enquête est ouverte, comme dans tous les autres dossiers, ça veut dire que l'enquête ne sera pas terminée avant 3, 4, 5 ans, puisque les juges d'instruction qui sont chargés de ces enquêtes doivent se rendre au Rwanda en commission rogatoire, enquêter, chercher des témoins à charge et à décharge. Nous, éventuellement, ce qu'on attendrait, c'est qu'il soit déjà arrêté, parce qu'il y a toujours le risque de le voir fuir, comme c'est arrivé dans certains autres cas. Voilà, la justice va prendre son temps. Nous avons encore plus d'une trentaine de plaintes qui, pour l'instant, n'ont pas abouti et qui sont toujours à l'instruction. Il y a une chose qui nous inquiète dans cette poursuite des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide. Ce sont les lenteurs de la justice et le manque de moyens qui est donné aux juges. Les juges sont trop peu nombreux pour enquêter dans toutes les affaires qu'ils ont. Quand le pôle génocide a été créé en 2012 à Paris, la plupart des dossiers dont traitaient les juges, c'était des dossiers qui se rapportaient aux Tutsis du Rwanda. Mais depuis, se sont rajoutés des crimes contre l'humanité au Libéria, au Sierra Leone, en Syrie, enfin un peu partout dans le monde. Donc on sait que les juges d'instruction sont débordés. Or, le génocide a eu lieu il y a 26 ans. En 26 ans, nous n'avons eu que 2 procès et 3 condamnations en France. Donc vous imaginez notre inquiétude quand on voit le temps que prennent les instructions. Nous, ce qu'on redoute, c'est qu'un certain nombre de ceux qu'on poursuit en justice, eh bien, ne soient jamais jugés parce qu'ils disparaîtront avant, ils sont âgés, ils sont malades, voilà.
Alain Gauthier, des propos recueillis par Cosima Mezidi Alem. Créer une radio ou une chaîne de télévision en Tunisie pourrait bientôt devenir très facile, trop facile, s'inquiètent certains, qui dénoncent un projet de loi pour réformer le secteur audiovisuel mené par les partis islamistes modérés et radicaux. Il suffirait d'une simple déclaration pour créer un média sans aucun contrôle derrière. C'est la porte ouverte à tous les abus, une menace pour la liberté d'expression et pour la démocratie, alerte la société civile à Tunis, Maureen Mercier.
Neji Bouri, président du syndicat des journalistes Fait-les-Comptes, ulcéré.
Malheureusement, ça peut passer.
Le projet de loi a déjà été adopté par la commission et oui, selon lui, cet amendement peut trouver une majorité au Parlement. Aujourd'hui, pour ouvrir une chaîne de télévision, il faut obtenir une autorisation, être transparent sur les financements. Mais demain, si ce projet passe...
On peut avoir une radio de Daesh. C'est ça le risque. On peut avoir une chaîne de télévision d'Al-Qaïda. Puisqu'on n'a pas besoin de donner nos ressources de financement, on n'a pas besoin d'avoir une licence ou bien une autorisation pour lancer cette chaîne. On laisse la porte ouverte pour les terroristes. Et c'est grave, pas seulement pour la démocratie tunisienne, mais pour la paix mondiale, bien sûr.
Neji Bouri et ses collègues assurent qu'ils combattront de toutes leurs forces ce projet, d'autant que depuis quelques années, ils voient leur travail se compliquer avec des menaces des islamistes de plus en plus fréquentes.
La situation devient vraiment très inquiétante. Comme journaliste, moi, je touche quotidiennement cette menace du courant islamiste. On est en train de fermer cette parenthèse de la liberté de la presse tunisienne. Nous sommes libres, mais nous sommes libres jusqu'à quand ?
Avant la révolution, la menace pour les journalistes venait du pouvoir. Aujourd'hui, selon le président du syndicat des journalistes, elle vient des islamistes. Ce sera encore plus le cas si cette loi passe.
Olivia de Havilland, l'actrice hollywoodienne d'Autant en emporte le vent, est morte hier. Elle avait 104 ans. Nous y reviendrons dans 10 minutes sur France Culture. En France, la chaleur s'installe encore un peu plus. Le temps aujourd'hui sera très ensoleillé, sauf en Bretagne et en Normandie notamment. Météo France attend jusqu'à 33 degrés à Strasbourg, 36 sur la moitié sud et le centre, 39 degrés à Albi, Chloé.
Merci Margot Delpierre, il est 7h10.